Vous écoutez On lit pour vous.
Ce danseur malentendant a transformé son handicap en force. Un texte de Axel Tardieu, paru le 1er septembre 2024 dans TVA Nouvelles. Danser quand on n'entend pas la musique? C'est l'exploit que réalise le chorégraphe Kay Clover, qui a perdu Louis à l'âge de 8 ans. Celui qui fait carrière comme danseur participera à la 22e édition du Festival Quartier Danse qui se déroulera du 5 au 14 septembre à Montréal. 24 heures l'a rencontré. Ce mercredi, dans le quartier du Mile End, Kay Clover et les danseuses de la troupe Affichou Turning sont en pleine répétition pour leur spectacle « Three Frames of Worry ». Le chorégraphe, originaire de Colombie-Britannique, observe, corrige et danse sans utiliser exactement les mêmes sens que les autres. Les mots à utiliser en français ou en anglais ne capturent pas toute l'expérience que j'essaie d'exprimer, dit-il. Avec la danse, j'arrive à être plus complet. Kay Clover est devenu sourd à l'âge de 8 ans des suites d'une méningite. Ce handicap ne l'a pas empêché de trouver sa vocation un an plus tard. Il vit maintenant de sa passion qui l'a amené à danser dans 18 pays. Quand j'ai découvert l'amour pour la danse, j'ai su que j'allais danser toute ma vie. Rester sur le rythme. Il retrouve une partie de son ouïe à l'âge de 9 ans, à l'aide d'un implant installé sous la peau, mais reste malentendant. Mais comment danser quand on n'entend pas la musique? Grâce à son métronome intérieur, Kay Clover réussit naturellement à rester sur le rythme d'une musique. Le chorégraphe, aujourd'hui âgé de 38 ans, utilise aussi des musiques avec des fréquences basses plus fortes pour mieux sentir les vibrations de la musique. Des repères visuels. Kay Clover se sert surtout de ses yeux pour observer les autres danseurs et développe des repères visuels tout au long d'une chorégraphie. Je sais que si un danseur fait un geste, j'ai une respiration pour ensuite faire un mouvement avec la jambe, donne-t-il comme exemple. Kay est très musical. C'est comme un dieu sur la scène, décrit le fondateur et directeur artistique du festival, Rafik Hubert Sabah. Pour ses partenaires de scène, collaborer avec un chorégraphe qui a une déficience auditive est une expérience unique. Il va y avoir des chorégraphes qui vont être spécifiques sur une certaine musicalité, alors que Kay va plus aller chercher l'émotion et la sensation qu'un mouvement nous fait vivre, explique Caroline Nams, danseuse qui a travaillé avec lui sur 6 projets depuis 2018. Il faut s'assurer qu'il te voit pour lui parler, qu'il n'y a pas de musique et qu'on ne parle pas tous en même temps. Ça nous unit encore plus comme troupe, souligne à son tour la danseuse Kennedy Henry. Artiste sous-représenté. Après 30 ans de pratique, Kay Clover a réussi à transformer son handicap en force. Il veut continuer à s'inspirer de la langue des signes pour ses créations et à collaborer avec des interprètes malentendants qui sont sous-représentés. C'est une beauté dans l'art qui manque, estime-t-il. Pour créer de nouvelles vocations, le festival Quartier Danse et Kay Clover lanceront en 2025 des ateliers pour des jeunes malentendants du secondaire dans la région de Montréal. Le spectacle « Three Frames of Worry » aura lieu le 11 septembre à 20h à la 5e salle de la Place des Arts. C'était « Ce danseur malentendant a transformé son handicap en force », un texte de Axel Tardieu paru le 1er septembre 2024 dans TVA Nouvelles.
À partir du moment où un village perd son école, c'est fini. Un texte d'Olivier Bossé paru le 31 août 2024 dans Le Soleil. La petite école constitue le cœur battant de nombreux villages au Québec. Mais faut-il la garder ouverte à tout prix, même quand on compte quasiment plus d'adultes que d'enfants entre ses murs? on entre au bout d'un couloir qui sépare l'espace en deux. À droite, le mur des mots chics. On trouve bouche bée, croupe, entrelacé, frivole, ingénieux, titubé, avec leurs définitions simplifiées. Morose aussi, et affligée. Mais ce n'est pas l'atmosphère qui règne en cette semaine de rentrée à l'école de Saint-Robert-Bellarmin. Pourtant, l'école primaire du village de moins de 600 âmes, logée aux confins de la Beauce, à deux pas de la frontière américaine, accueille cette année 27 élèves, de la première à la sixième année. 16 de moins qu'il y a 4 ans, surtout 7 de plus que les prévisions pour l'an prochain. De 4 classes encore l'an dernier, on passe à 3 cette année. Ça devrait tomber à 2 dans 12 mois. 2 classes à triple niveau. Si les écoles débordent en ville, à la campagne, plusieurs se vident. Selon une étude de l'Université Laval parue en 2023, le Québec compte environ 350 écoles de moins de 100 élèves, sur un peu plus de 1800 écoles primaires. Une directrice, 3 écoles. En face des mots chics, le mur des photos de groupes annuels prises dans la cour. Une par année avec tous les élèves et les membres du personnel de l'école, ensemble. On remonte aux années 1990. Le regard balaie de gauche à droite. À l'évidence, le nombre d'enfants diminue d'une photo à l'autre. Ce ne sera pas une surprise si un jour ça vient à fermer, constate la directrice générale adjointe du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin, Karina Roy. Assise dans le bureau de la directrice de l'école Bellarmin, Mme Roy s'est déplacée des bureaux de Saint-Georges pour participer à l'entrevue avec le soleil. Pas simple de faire coïncider les horaires quand la directrice passe en moyenne une seule journée par semaine en personne à Saint-Robert. Marie-Claude Giguère travaille dans 3 écoles. Elle est aussi directrice à Saint-Ludger, le village voisin, et directrice adjointe à Saint-Martin, un peu plus au nord. Madame Giguère habite à Saint-Georges et voyage matin et soir. Elle a déjà travaillé au ministère de l'Éducation, au Complexe G, à Québec, tout en demeurant à Saint-Georges. Bientôt sous surveillance. Madame Roy, du Centre de services scolaires, confirme que l'école Bellarmin devrait être sous surveillance à compter de l'an prochain. En gros, au Québec, une école doit satisfaire 2 critères pour rester ouverte. 1. Avoir au moins 12 élèves. 2. Avoir au moins 6 élèves dans chacun des 2 cycles. Donc, au moins 6 de la première à la 3e année et au moins 6 de la 4e à la 6e. Ici, la ligne du 6, en 1, 2 et 3, va être atteinte dès l'an prochain, révèle Mme Roy. Vous comprenez qu'il ne faut pas qu'il y en ait un qui parte. S'il m'en part un l'an prochain, on va donner l'année de grâce et regarder si le scénario va se répéter dans les prochaines années. Saint-Robert a la plus petite, mais le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin compte 12 écoles de moins de 100 élèves. 6 amorcent l'année avec moins de 60 enfants, ce qui leur vaut une subvention spéciale du ministère, à défaut d'obtenir assez avec le montant par élève. À Saint-Robert, c'est 20 000 $ de plus pour l'année. Comme M. Tony. Si certains enseignants et professionnels sont passés par Saint-Robert au fil des ans dans l'objectif avoué d'obtenir une permanence, la directrice Giguère assure que les gens qui viennent travailler ici ont envie d'être ici. Ils sont 12, mais à part les 3 enseignants titulaires et le responsable du service de garde, les autres employés font tous plus d'une école. Il y a M. Tony, le prof de 6, là depuis 15 années. La concierge et le technicien en service de garde forment un couple et leurs 2 enfants fréquentent l'école. Mais à partir du moment où un village perd son école, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus personne qui va venir s'installer là. Idéalement, il faut garder l'école ouverte le plus longtemps possible, plaide Mme Giguère, qui, chaque année, doit répondre aux parents inquiets d'une éventuelle fermeture. Comme elle, il constate la diminution du nombre d'élèves. Deux enfants de Saint-Robert vont même à l'école à Saint-Gédéon-de-Beauce, petite ville la plus proche et siège de l'usine de Canam. Ça fait 31 ans que je travaille dans le milieu de l'éducation. Il faut que l'éducation aille partout. Oui, nos taxes et impôts à tous paient pour ça. Et la capacité de payer des gens a une limite. Mais je n'ai jamais vu un village qui a perdu son école et l'a retrouvée après, reconnaît la directrice de l'école Bellarmin. Un exemple à suivre. Madame Giguère rêve d'un programme pédagogique unique qui assurerait l'avenir de l'école de Saint-Robert. La nature est partout autour. Pourquoi pas un programme de plein air qui attirerait des enfants des villages voisins? L'école de Saint-Mathieu-du-Parc, en Mauricie, a bel et bien fermé ses portes par manque d'élèves en 2004. Elle a rouvert dès l'année suivante en tant qu'école alternative et a presque atteint aujourd'hui son maximum, avec une centaine d'élèves. En 2021, près de Montmagny, le village de Sainte-Apolline-de-Paton avait fait tirer un terrain et la location d'une maison pour un an, dans le but d'accueillir de nouvelles familles et éviter la fermeture de son école. Malgré le succès de l'opération, à peine 3 ans plus tard, l'école de Sainte-Apolline n'a que 6 élèves de la 4e à la 6e année et redevient en situation précaire. Dans le coin de Matane, plusieurs écoles des villages environnants pourraient être bientôt forcées de fusionner. Au Bas-Saint-Laurent, en Abitibi-Témiscamingue, sur la Côte-Nord et en Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, les petites écoles en milieu rural représentent entre 40 et 50 % des établissements scolaires, selon l'étude de la chercheuse Olivia Roy-Malo. Une grosse épine au pied. Maire de Saint-Robert depuis une 20aine d'années, Jeannot Lachance a aussi été commissaire scolaire. L'homme de 74 ans a passé le plus clair de sa vie ici. Son petit-fils fait son entrée à l'école du village cette année, après avoir suivi la maternelle à Saint-Ludger. Les redevances du parc de 52 éoliennes, plantées près du mont Bélanger, permettent à la municipalité nommée en l'honneur d'un vieux cardinal italien d'avoir des terrains de baseball et de deck hockey, une caserne incendie neuve et bientôt un garage municipal à 5 millions de dollars. Si notre école ferme, nos maisons vont perdre de la valeur et ça va devenir difficile après d'attirer des familles, explique celui dont les 3 fils sont revenus s'établir au village, qui a vu naître les chanteurs country Fidèle Lachance et Tonio Lachance. Mais ils ne sont pas parents avec le maire. Si l'école ferme, ça vient nous mettre une grosse épine au pied. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il se passe quelque chose rapidement, dit Jeannot Lachance, maire de Saint-Robert-Bellarmin. L'administration municipale, dont les bureaux occupent des espaces loués à même la bâtisse de l'école, songe à payer un terrain pour la construction d'un immeuble de 6 logements. Aussi à acheter 2 ou 3 terrains pour les préparer, passer les égouts. Si quelqu'un veut venir s'établir, il serait prêt. Car ici, comme en ville, le manque de logements s'avère un problème. Les maisons à vendre se font rares dans le coin et quand il y en a une qui se libère, ça ne dure pas longtemps. Ça prend des services. Même chose dans le village voisin, Saint-Ludger, qui compte un peu plus de 1 000 habitants. Mais la même directrice d'école. Dans le moment, j'aurai 2 logements, un 5,5 et un 3,5, mais ils ne seront pas là longtemps. Il restait une maison à vendre et vous devez l'avoir vue, sur la rue principale. Elle est marquée « Vendue », fait valoir le maire de Saint-Ludger, Denis Poulain. Le maire Poulain, dont l'hôtel de ville loge dorénavant dans les locaux de l'ancienne caisse des jardins, insiste sur la nécessité d'offrir des services pour garder les familles dans les petites municipalités. Si on n'est plus capable d'avoir des services, ils vont aller où il y en a, estime M. Poulain. L'école Nazareth compte cette année 56 élèves répartis dans 5 classes. Il faut absolument garder les petites écoles ouvertes. Imaginez commencer à les faire voyager à 5 ans. Il ne faut pas se demander pourquoi, à 16 ans, ils veulent lâcher. Déjà 10 ans dans les autobus, ils vont être tannés, lance-t-il avec son franc-parler. En plus d'avoir une 40aine de places en garderie, Saint-Ludger s'enorgueillit d'une piscine municipale creusée. Le maire espère voir le retour d'une vraie épicerie. Un esprit de famille. À Saint-Robert, il y a aussi une rue Lachance. On y trouve le restaurant dépanneur marché-boutique chasse et pêche vers le détour local. À une table, une vieille dame en veste blanche mange sa demi-assiette de steak haché en sauce avec salade. Dans un coin, une 20aine de livres sur une tablette pour les adultes et quelques jeux par terre pour les enfants. La propriétaire a 26 ans seulement. Ève-Marie Gaulin et son chum ont acheté le commerce il y a 1 an et demi. Elle vient de La Place, lui de la rive nord de Montréal. Partie à Saint-Georges à 17 ans pour étudier la gestion de commerce, elle a ensuite habité en Ontario, au Nouveau-Brunswick, à Québec, avant de rentrer à la maison. Madame Gaulin fait partie du comité de développement qui se penche sur des façons de ramener des familles à Saint-Robert. Le plus difficile, c'est le logement. Les personnes âgées restent longtemps dans leur maison à Saint-Robert, ce qui est très bien. Mais quand elles décèdent, on voit que c'est souvent des gens de la ville qui viennent ou reviennent prendre leur retraite à la campagne qui les achète, dit Ève-Marie Gaulin, membre du comité de développement de Saint-Robert. De nouveaux appartements pourraient servir à des aînés du village qui souhaitent exécuter moins de travaux d'entretien, ce qui libérerait en même temps des maisons pour les jeunes familles. Madame Gaulin, qui a elle-même fréquenté l'école Bellarmin, retrouve dans son patelin natal un esprit communautaire plus fort que dans les autres villages. Comme une grande famille qu'elle fera tout pour garder soudée. C'était « À partir du moment où un village perd son école, c'est fini », un texte d'Olivier Bossé paru le 31 août 2024 dans Le Soleil.
La Fondation Myriam lance une campagne de financement pour son 50e anniversaire. Un texte d'Index Santé, paru le 6 septembre 2024 dans Index Santé. À l'occasion de son 50e anniversaire, la Fondation Myriam annonce le lancement d'une campagne de financement majeure visant à recueillir 1 million de dollars pour soutenir les personnes ayant des troubles de neurodéveloppement tels que le trouble du spectre de l'autisme, TSA, et la déficience intellectuelle, DI, ainsi que leurs familles et leurs proches. Cette campagne marque un tournant important pour l'organisation, qui souhaite renforcer son impact et étendre ses services spécialisés à un nombre croissant de personnes. Objectif de la campagne. Warren Greenstone, président-directeur général de la Fondation Myriam, exprime l'ambition de la campagne. Nous nous sommes fixés un objectif de financement ambitieux lors de cette première campagne d'envergure qui culminera avec la soirée bénéfice du 7 novembre. Mais l'objectif de cette campagne du 50e anniversaire va bien au-delà de la collecte de fonds. Nous visons à accroître l'impact et la notoriété de la Fondation. Je suis convaincu qu'avec l'appui de nos partenaires, donateurs et nombreux membres bénévoles des comités, nous atteindrons cet objectif. Comment contribuer? Les individus et les entreprises peuvent soutenir la campagne en faisant un don via le site web de la Fondation ou en participant à l'événement bénéfice du 7 novembre 2024 à 18h30 à la maison principale, 872 rue du Couvent, Montréal. Cette soirée spéciale marquera 5 décennies d'engagement et de réalisation, avec un programme mettant en lumière la mission de la Fondation et son impact positif dans la communauté. La Fondation propose également des forfaits de commandite et de visibilité pour que les partenaires puissent jouer un rôle central dans la construction d'un avenir meilleur pour la communauté. Déclaration du nouveau président du conseil d'administration. Jean-Claude Gravel, récemment nommé président du conseil d'administration de la Fondation, souligne : Je suis fier que Myriam soit la première organisation dédiée à l'autisme à célébrer un tel anniversaire. Plus que tout, nous souhaitons mobiliser la communauté dans nos activités de collecte de fonds pour ce 50e anniversaire afin de générer le soutien qui nous permettra d'offrir des services et des programmes essentiels pour les 50 prochaines années. Impact des fonds recueillis. Depuis sa création en 1973, la Fondation Myriam a recueilli et investi plus de 75 millions de dollars, aidant ainsi plus de 8 000 personnes ayant un TSA ou une DI, ainsi que leurs familles. Les fonds de la campagne sont utilisés pour le Centre d'apprentissage et de recherche Gold, financer les activités et les programmes du centre, Materia Tech, soutenir cette banque de ressources unique offrant près de 5 000 outils éducatifs conçus pour stimuler le développement, formation et recherche, financer la formation avec les partenaires et soutenir la recherche et l'innovation pour des services personnalisés et à la fine pointe de la technologie. Rôle de la Fondation. La Fondation Myriam joue un rôle essentiel dans l'écosystème des services en offrant des services et programmes spécialisés à tarifs réduits, en maintenant les infrastructures, en soutenant l'acquisition d'équipements et en finançant la recherche pour garantir des services de haute qualité. À propos de la Fondation Myriam. Fondée en 1973, la Fondation Myriam est dédiée à la collecte de fonds pour la création et le maintien de programmes innovants d'intervention clinique, récréative et éducative. Elle se consacre à offrir un environnement stimulant et un soutien adapté aux besoins spécifiques des personnes qu'elle aide, visant à leur permettre de s'épanouir et d'atteindre leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez MyriamFoundation.ca. C'était « La Fondation Myriam lance une campagne de financement pour son 50e anniversaire », un texte d'Index Santé, paru le 6 septembre 2024 dans Index Santé.
Une aidante naturelle en colère. Un texte d'Hélène Martel paru le 4 septembre 2024 dans Le Soleil. Parole au lecteur. Chaque fois que j'apprends qu'une RPA va fermer ses portes pour des raisons essentiellement financières, je vire au rouge et je me demande pourquoi le gouvernement du Québec ne réagit pas. Ce problème va le rattraper de toute façon, parce que tous ces aînés qui doivent quitter et trouver un hébergement seront tôt ou tard sur une liste d'attente d'un CHSLD, à moins qu'ils ne meurent avant. Essayez d'imaginer la situation de ces personnes dans un contexte de pénurie de logements, parfois loin de leurs proches, qui doivent quitter sur le champ leur milieu de vie sans savoir où aller. Cette situation douloureuse leur est imposée pour une simple question d'argent? Le Regroupement québécois des résidences pour aînés, RQRA, ne pourrait-il pas faire pression auprès de l'État pour l'inciter à faire l'acquisition de ces résidences ou de quelques-unes qui sont fonctionnelles et dotées du personnel nécessaire? Pourquoi laisser partir ce dont notre société vieillissante a tant besoin? La pandémie a révélé tellement de lacunes dans notre système que ça devrait nous servir de leçon. Tant d'aînés sont morts dans des conditions inhumaines, pas toujours à cause du virus, mais en raison d'un système qui a failli. C'est bien beau une usine à batterie, financée à coups de milliards. Comme contribuable, j'exige que mes impôts servent à offrir un lieu sécuritaire aux personnes âgées qui se retrouvent totalement démunies et vulnérables. 1100 RPA ont fermé leurs portes au Québec en 10 ans, un précieux trésor qu'on a laissé aller comme le traitement qu'on réserve à notre patrimoine. Pour le cas très précis de la Villa Marie-Ange, dans la région de la Mauricie, j'apprends que des banques ne veulent pas financer de petites résidences à moins de 50 unités. et que l'installation de gicleurs, exigée par le gouvernement, force le propriétaire à mettre la clé sur la porte. Où vivons-nous? Dans une république de bananes, incapable de protéger ses aînés. M. Legault, pendant la pandémie, n'a cessé de répéter comme un leitmotiv à quel point nos aînés sont importants. Alors pourquoi on ne l'entend jamais s'indigner devant cette situation inacceptable qui va se répéter? On trouvera toujours une explication alambiquée pour conclure qu'on ne peut rien faire ou qu'on a fait tout notre possible. Imaginez le nombre de logements et de personnes âgées abandonnées depuis 10 ans. Et pourquoi de riches banques refusent de financer les petites RPA? Qu'ont-elles à perdre? En réalité, ce n'est pas l'argent qui manque, c'est le cœur. Posez la question aux citoyens du Québec qui vont connaître le même sort, tôt ou tard. Une usine à batterie ou des résidences pour aînés? Et pourquoi devrions-nous faire un choix? La valeur d'une société se reconnaît à sa capacité à prendre soin de ses vieux. C'était « Une aidante naturelle en colère », un texte d'Hélène Martel paru le 4 septembre 2024 dans Le Soleil.
Un spectacle avec Sylvain Ménard au profit de l'APEHD. Un texte paru le 2 septembre 2024 dans L'Express. Le chanteur Sylvain Ménard, natif de Wickham, foulera les planches du Théâtre Bellecour de Baie-du-Fèvre le 5 octobre. Dans le cadre de la toute première soirée « Vive la différence » au profit de l'Association des parents d'enfants handicapés de Drummondville, APEHD. Sylvain Ménard présentera un spectacle regroupant des titres qu'il a chantés au cours de ses 26 ans de carrière, mais également des pièces tirées de son plus récent album, Plus fort que tout. C'est accompagné de ses musiciens et choristes qu'il renouera avec le public de la région. De plus, les gens pourront entendre une chanteuse de Drummondville très impliquée auprès de l'APEHD, à savoir Manon Grenier. Étant elle-même mère d'un enfant différent, elle a accepté de faire la première partie dans une formule acoustique. L'argent amassé durant cette activité bénéfice servira à offrir des services aux parents d'enfants handicapés de la MRC de Drummond, tout en permettant à l'organisme d'initier des démarches de partenariat avec l'Association des personnes handicapées de Nicolet Yamaska afin d'offrir des services aux proches aidants de leurs membres. CGM. C'était un spectacle avec Sylvain Ménard au profit de l'APEHD, un texte paru le 2 septembre 2024 dans L'Express.